ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Luc Donadieu. Bonjour Jean-Luc, merci d'être venu au studio Radio Présence. C'était pas facile parce qu'il y a des embouteillages sur la rocade et puis surtout, il a fallu monter au premier étage. Alors ça fait quoi, 40 marches?
Ouais, à peu près, mais ça a été.
En fauteuil roulant, et ça a été. Hein, voilà, il y avait des anges qui nous ont portés.
Oui, des anges, je sais pas, mais des bons bras.
Des bons bras, voilà. C'est ça. Alors, je suis vraiment content que vous veniez parler de votre foi, qui est vraiment profonde. Alors, un ami me disait, « Oh, mais c'est aussi un poète, Jean-Luc, il est acteur dans l'école de Coluche. » Donc, vous venez nous parler à la fois de vos responsabilités comme ancien responsable de la pastorale.
Des personnes handicapées pour le diocèse de Toulouse.
Attention, c'est pas moi qui vais vous corriger. Des personnes en situation de handicap. Vous nous avez apporté un beau poème, celui de Grand Corps Malade. Justement, le mot handicap, il fait peur. Et vous venez avec votre sourire.
Oui.
Vous êtes reparti, on appelle ça la résilience, après un choc, après un accident de nuit, par quelqu'un qui s'est arrêté.
Oui.
Il aurait pu partir, s'enfuir.
Ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui préfèrent s'échapper.
Mais ils ont une mauvaise conscience. Et,
j'espère pour eux.
Si on lit le psaume de la liturgie d'aujourd'hui, on dit « Heureux, toi qui, ô Seigneur, qui a enlevé ma faute. » Parce que parfois, on ne fait pas exprès. Il y a une imprudence, on ne voit pas clair, on a le soleil dans l'œil. Bon, vous venez aussi nous parler du service de la diaconie et de l'EAP Colomiers. Ça fait beaucoup de choses.
Oui, l'EAP à Colomiers, ça fait il y a quelques années déjà. Parce qu'après, j'ai pris mes fonctions au niveau du diocèse. Et ça a été, voilà, 6 ans très intéressantes où j'ai essayé de faire des choses. Déjà, par rapport à l'handicap, on a pu animer 2 dimanches autrement autour de l'handicap. Avec une messe préparée et animée par les personnes handicapées. Et l'après-midi, voilà, c'était la première fois, c'était un peu, voilà, il y avait des associations et tout qui racontaient un peu ce qu'ils faisaient par rapport aux personnes en situation de handicap. Et la deuxième journée, c'était avec le curé de Colomiers, Jean-Christophe Cabanis.
Qui est venu ici, qui nous a parlé de sa foi également, oui.
Et bon, au début, il était pas très chaud, mais quand je lui ai dit qu'on pourrait parler du monde de la scolarité et du travail des personnes handicapées, ben, il m'a laissé faire. Donc voilà, j'ai contacté des témoins, des gens qui pouvaient parler de ça.
Et vous dites que c'est une grande joie, car c'est au plus près des pauvretés que l'on vit l'Évangile.
Oui, mais pour la diaconie, oui. Pour la diaconie, oui, parce que là, c'est plus seulement des personnes handicapées, mais c'est aussi des personnes pauvres, des migrants, des gens du voyage, des personnes qui malheureusement vivent la prostitution. Voilà, tout ce qui fait peur, tout ce qui dérange.
Et puis cette hiérarchie implicite ou explicite dans la société, où ceux qui sont en dessous, ceux qui sont en bas, sont méprisés. Alors que Sébastien Combre, qui est bien connu ici, Sébastien Combre, est le responsable du service diocésain de la diaconie, il dit souvent, et j'aime sa phrase, c'est quand on regarde un jeu de cartes, ceux qui sont en dessous, qui soutiennent, c'est pas les premiers de cordée. Et donc, pour Jésus, il n'y a plus ni pauvre ni riche, il y a des hommes qui sont tous aimés, et d'ailleurs d'autant plus aimés, qui sont en attente. Vous nous apportez d'ailleurs le chant du Magnificat à la fin de notre rencontre, et un beau poème.
Oui, mais voilà, je crois que je vais, parce que c'est récent, je crois que je vais me plaire dans ce service. Et effectivement, c'est pour moi vivre véritablement l'évangile. Et Jésus n'a eu de cesse de dialoguer avec ces personnes-là, de leur donner la parole, de leur rendre leur dignité. Donc, avec Sébastien et toute l'équipe, on va essayer.
Vous allez réussir, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une question de foi, de mystique, de contemplation et de prière. C'est aussi un engagement politique, parce que on sait ce que ça veut dire, que les trottoirs en ville, le droit au logement et bien d'autres choses qui font que c'est un combat politique, comme citoyens égaux aux autres.
Oui, voilà. Mais bon, des fois, pour faire bouger les consciences et les mentalités, c'est très difficile, même dans le milieu ecclésial.
Oui, et voilà. Dans le milieu juridique, parce qu'il y a des avocats, il y a des personnes qui sont engagées dans des associations, et quand on dit les lois votées au Parlement, d'abord, ne sont pas connues, il y a un état de droit qui subit une menace concrète, quotidienne, avec beaucoup de difficultés, et il y a des rapports. Et puis, les lois, quand elles ne sont pas suffisamment dans l'esprit de la fraternité, eh bien, il faut se battre, et c'est aussi le travail des députés, de certains députés et d'autres...
Oui, après, il y a des lois qui passent, qui sont votées, mais qui ne sont pas appliquées, en fait. Quand on regarde la loi de 2005,
oui.
Qui exige l'accessibilité à certains bâtiments, à certains
services publics,
et tout, on est encore en retard par rapport à certains pays. Vous allez par exemple aux Pays-Bas ou autres, ils sont en avance.
Il y a une édition de la France Culture qui s'appelle « Sous les radars ». Il y a un certain nombre de spécialistes, alors bon, pas que des sociologues, mais qui disent, comme Pierre-Yves Baudot, professeur de sociologie à Paris Dauphine, le droit au logement est opposable, mais ça fait 17 ans qu'il a été modifié, et pourtant être DALO, DALO, selon l'expression consacrée, ne garantit plus l'obtention d'un droit. Donc c'est un engagement citoyen et vous n'êtes pas seul.
Oui, ben, ce qu'on vous donne d'un côté, on vous l'enlève de l'autre. Donc, voilà.
J'aime pas le « on » parce que c'est impersonnel et
oui,
c'est un peu
ça,
tout le monde.
Et ça rime avec un autre mot.
Ah oui, que nous n'aimerons pas ici.
Voilà.
Mais nous avons réussi à monter à l'étage parce qu'il y avait 8 bras.
Voilà.
Et le sourire de ceux qui nous accueillaient avec un café à Radio Présence. Oui, et donc je crois que c'est bien que vous ayez apporté ce chant, ce poème, ce cri de révolte de grand corps malade.
Oui, mais j'espère qu'avec ce morceau, parce que c'est du slam, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chanson.
Ah ben c'est du slam, mais on aura du grégorien tout à l'heure.
Mais j'espère qu'il y en a beaucoup qui l'auront écouté et que ça leur aura parlé. Quoi.
Et on peut le télécharger. Et Christophe va nous le faire écouter tout de suite.
Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment. Quand l'envie de sourire redevient un instinct vital. Quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et Jean-Luc Donadieu, vous venez nous parler de votre résilience à la suite d'un accident qui vous a rendu handicapé. Alors, nous n'allons pas reparler de cet accident, mais je pense que, comme dirait peut-être Thérèse, à toute chose, malheur est bon, c'est dramatique. Mais peut-être que ce choc, après un temps de grande tristesse et d'émotion et de lutte, vous a permis de vous replonger dans votre passé, dans votre famille.
Oui, j'en ai témoigné plusieurs fois, de différentes façons. Voilà, j'étais croyant déjà avant mon accident. J'ai eu ma première communion un ou deux ans avant mon accident. Mais l'accident a créé un peu comme une interruption ou une petite rupture.
Une grande rupture.
Une grande rupture avec le Seigneur. Il ne faisait plus partie de ma vie, en fait.
Pourquoi moi ? C'est Job. Job qui se demande qu'est-ce qui se passe.
Je ne me suis jamais posé cette question, en fait. Je me rappelle que quand j'étais à l'hôpital, que je me suis réveillé du coma, ma première question, c'est... déjà, j'étais étonné d'être à l'hôpital et j'ai demandé à l'infirmière ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit que j'avais eu un accident. Je croyais que c'était au ski parce que c'était la première fois de ma vie que j'allais au ski ce jour-là. Elle m'a dit non, c'est sur la route. Et du coup, je refermais les yeux et je me suis rendormi. Donc, ça ne m'avait pas traumatisé plus que ça. Après, j'ai été en centre de rééducation où là, pareil, le Seigneur... Il n'était pas dans le centre de rééducation, en fait. Et je ne risque pas de l'y trouver. Et consultation chez le docteur, et je suis allé franco. Je lui ai demandé si j'allais remarcher un jour ou l'autre. Il m'a répondu une réponse de Normand. On ne peut pas se prononcer. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris. Et je suis reparti à mes activités, puis voilà. C'est vrai que j'ai passé une période plutôt difficile, plutôt noire. Et ça a duré quelques années. Et un jour, j'ai un copain qui était musulman qui a reparlé de Dieu. C'est la première fois que je réentendais parler de Dieu.
Les voies du Seigneur sont parfois impénétrables.
Oui.
C'est par d'autres croyants que votre foi est repartie, parce que on ne souffle pas sur une bougie qui va s'éteindre. Au contraire, on la protège, cette flamme, et on la voit, cette flamme, alors que vous êtes venu avec votre propre voiture et un ami, parce que vous conduisez.
Oui.
Avec le fauteuil roulant dans le coffre, mais avec vraiment une sérénité.
J'ai la possibilité de mettre, parce que j'ai un système qui me permet de rentrer et sortir le fauteuil de façon autonome. Mais là, pour faire un peu plus vite, on m'a mis le fauteuil dans le coffre et on me l'a ressorti en arrivant.
Mais vous allez aussi en pèlerinage, et c'est ça qui vous donne aussi une grande
Le pèlerinage du rosaire, justement, j'allais en parler. Il y a eu cette relation avec ce copain qui m'a reparlé de Dieu. Et ma mère, qui croyait au miracle de Lourdes, avait entendu parler du pèlerinage du rosaire. J'ai dit, si ça te fait plaisir, on va y aller. À condition qu'on soit ensemble, dans le train, dans l'hébergement et tout. Finalement, on n'a pas été ensemble ni dans le train, ni à l'hébergement. Mais c'est là que le Seigneur s'est présenté à moi, en fait. Parce que pendant toute cette semaine, j'ai vu ce qu'était l'amour. L'amour, ces hospitalières, ces brancardiers qui étaient là pour que les malades puissent vivre leur pèlerinage au mieux. Et je me souviendrai toujours de d'une hospitalière qui était bretonne. Le premier soir, elle est restée avec moi jusqu'à 3h du matin et à discuter, tous les deux. Et je me rappellerai toute ma vie. Et le vendredi après-midi, c'était la cérémonie de clôture au moment du don de la paix. Je me suis retrouvé tout seul pendant que les gens se donnaient la paix autour de moi. Et je me suis mis à pleurer.
Le don des larmes.
Et j'ai dit, l'année prochaine, je reviens.
Oui.
Et j'ai fait, en fait, une trentaine de pèlerinages.
Et vous accompagnez d'autres personnes.
Et je suis devenu brancardier animateur.
En fauteuil roulant.
En fauteuil roulant avec un copain dans un groupe de jeunes adultes. Et déjà à cette époque-là, eh bien, je voulais que les personnes handicapées puissent être actrices de leur pèlerinage. On animait des messes. Je voulais que ceux qui savaient lire puissent faire des lectures. Ceux qui ne pouvaient pas lire, et que des brancardiers, des hospitalières, les poussent et fassent la procession des offrandes.
Ils ne sont pas assistés, ils sont des acteurs.
Voilà.
Ils construisent le royaume de Dieu.
Et toute ma vie par rapport aux handicapés, il n'y a pas... Voilà, j'essaye, il faut qu'ils soient vivants. Comme j'ai dit à celle qui va me remplacer, qui me remplace, à la pastorale des personnes handicapées, j'ai dit...
Marie-Sylvine
Non, Noémie. Ah,
Noémie, pardon.
Noémie Combetsol, une jeune de 26 ans qui est très motivée, dont je l'ai briefée, j'ai dit, il faut que les personnes handicapées soient envahissantes, qu'elles envahissent les paroisses, qu'elles envahissent les églises, qu'elles envahissent les services paroissiaux. Il faut que les personnes handicapées soient partout.
Alors, vous étiez paralysé et vous voilà debout.
Je suis toujours paralysé.
Oui, mais extrêmement actif. Alors, je voudrais vous poser deux questions.
Allez-y.
On ne dira pas tout. Mais il y a ceux qui ont été accidentés, mais il y a ceux qui ont été handicapés. Alors, du regard, de l'écoute, de la parole à la naissance. Et pour les médecins, ou pour toute une série de personnes dans la société, de philosophes, on dit, mais la question qui était posée à Jésus, qui est-ce qui est responsable ? Il dit, non, il n'y a personne qui est responsable, c'est pour que la bonté, la charité de Dieu se manifeste aujourd'hui. Et je voudrais, alors justement, vous poser la question de l'asile, de ce qu'on dit aliéné. Parce que aliéné, ça veut dire je suis autre que moi et je suis perdu. Mais pour qui ? Parce qu'on est tous un petit peu malades, non pas peut-être dans sa tête ou dans son corps, mais on a tous besoin d'être sauvés. Et c'est dans le cas de la foi... ce qui nous est donné à vivre et à témoigner. Vous êtes venu parler de vos convictions.
Oui.
Ben oui, c'est très beau. Alors, parce que je pourrais dire, ah ben oui, mais la loi, déjà en 1838, par le célèbre ministre Montalivet, bon, il y avait une phrase d'Emmanuel, on est aliéné ou on ne l'est pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas aussi tranché, aussi simple. Car tous les textes législatifs jusqu'en 1990 et encore maintenant demandent à ce qu'il n'y ait pas d'enfermement des aliénés. C'est la question aussi de l'école inclusive.
Oui. Enfin, l'école inclusive, quand on... Je ne sais pas quoi en penser. C'est vrai qu'on parle d'école inclusive, mais en fait, on ne donne pas tellement les moyens, quoi. Quand on voit les AVS qui sont à peine formées, et pourtant elles sont valeureuses. Hein. Voilà. On leur dit oui, mais en fait on ne fait rien pour.
Alors vous redites encore on. Mais la question fondamentale, c'est qui nous sommes. Alors qui est responsable et comment agir ?
Mais comment agir, je ne sais pas.
Vous le savez.
C'est pas moi qui fais les lois. Donc, et ce n'est pas moi qui les applique pas. Voilà, il faut demander au gouvernement, il faut demander aux députés, il faut demander à ceux qui ont la prétention de nous gouverner.
Et avoir la foi que c'est possible. La foi transporte les montagnes, mais ça, c'est le grand président Mao qui a fait beaucoup de mal. En tout cas, nous allons bientôt... Hélas, terminé notre conversation, mais vous avez apporté un beau poème qui nous ouvre aussi vers le chant de la de la reconnaissance par Marie qui s'appelle le Magnificat et que nous allons écouter dans la version de Vivaldi. Alors, Jean-Luc, merci de ce poème que vous nous avez apporté parce que nous avons parlé de Lourdes, de l'eau qui purifie, de l'eau qu'on pourrait appeler bénite, de l'eau bénie.
En fait, oui, c'est un poème que j'avais écrit une année pendant un pèlerinage du Rosaire dont le thème était l'eau.
Et s'adresse à la Samaritaine. À la Samaritaine, tu donnas de ton eau.
En fait, il s'adresse à Jésus.
Oui, bien sûr.
Il s'adresse à Jésus, pas à la Samaritaine. Et il dit, à la Samaritaine, tu donnas de ton eau. J'en boirai bien aussi pour voir l'homme plus beau.
Car enfin, avec l'œil doué de clairvoyance, je verrai dans les âmes par-delà l'apparence.
J'ai le verbe souvent plus tranchant qu'un couteau. Je suis calomniateur, sème des noms d'oiseaux, afin que mes paroles aient la douceur des proses.
J'accepte volontiers de l'eau que tu proposes.
Mes rancunes trahissent un amour capricieux. Je désire pourtant, tel mon Père des cieux, aimer tous les hommes d'une égale tendresse.
Donne-moi de ton eau pour ce cœur sans faiblesse.
Être de peu de foi, je suis un mécréant. J'ignore sans pudeur tous tes commandements. De baigner dans cette eau mes lèvres si envieuses.
Je mènerai, c'est sûr, une vie bonne et pieuse.
Oui, je veux de cette eau, car quand j'en aurai bu, inexorablement la mort sera vaincue.
Et pour l'éternité, par ce don du Seigneur, j'entrerai dans ce monde où règne le bonheur. C'est donc ce poème que vous nous avez apporté. Je voudrais que vous nous disiez un mot de confiance pour terminer notre dialogue. Nous reprendrons le psaume 31. Enlève, Seigneur, les fautes. Enlève l'offense de ma faute, mais de la faute des autres. C'est ce que nous disons à la messe. Agneau de Dieu.
Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Et nous disons aussi le Notre Père qui nous dit de pardonner nos fautes comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal.
Oui, après je ne lui en veux pas à cette personne. Voilà, m'a renversé. Sur le moment, peut-être j'aurais pu lui en vouloir. Je lui en veux surtout parce que je ne l'ai jamais rencontré.
Voilà, eh bien, écoutez, c'est peut-être pour un autre jour. En tout cas, merci et nous pouvons rendre gloire à Dieu pour cette force qui nous habite et le salut qu'il nous donne. Merci Christophe pour ce Magnificat que vous nous donnez.